Bonjour à tous. Je m'appelle Rémi. Vous pouvez m'appeler Rémi. Et je vais avoir la délicate tâche de vous parler d'agilité. Quand on part de zéro, découvrir, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Est-ce qu'on peut faire un premier sondage qui serait de savoir si vous êtes plutôt de l'IT, de l'informatique, d'un autre domaine? Alors, mettons que ceux qui viennent de l'IT. D'accord, un quart. OK. Alors après, c'est quoi? C'est l'industrie? Il y a quoi? Si vous pouvez donner vos jobs? E-commerce.
Comptabilité.
Pardon?
Comptabilité.
Compta.
C'est un public.
Public. Et pendant que c'est un public? Finance.
Qualité.
Communication. OK, merci.
Agriculture.
Agriculture, excellent.
Soins.
Ouais. Merci. Waouh. Bienvenue. Oui. D'autres filières?
Social.
Alors, bienvenue à tous. Vous avez tous votre place, c'est important. L'idée de fond, c'est que l'agilité est née dans l'informatique. Donc, je pourrais avoir un discours qui pourrait être seulement informatique, d'accord? Et ça ne va pas être le cas, mais c'est bien, du coup, je vais m'adapter. Première vertu de l'agilité, s'adapter, d'accord? Hop. Je vous ai mis ça pour commencer à vous imprégner. Ce sont les principes du manifeste agile, d'accord? Et si vous pouvez les apprendre par cœur, c'est top. Puis comme ça, je m'en vais, c'est fini. On va voir plusieurs choses. Par où commencer? On va faire ça quand même. Je voulais faire de l'interactif et puis après on m'a dit qu'il y aura 90 personnes, voire même 180. Et je me suis dit, ça, pour l'interactif, c'est mort. Comme on a un tout petit peu d'avance, je vais quand même essayer quelque chose. Dans l'agilité, on est très ramené à l'humain. D'accord? C'est le point de départ, même si on ne le dit pas souvent. Je vais vous illustrer ça très prochainement. Et le premier truc, c'est donc qu'un des modes d'apprentissage le plus efficace chez les êtres humains, vous savez ce que c'est?
Le jeu.
Le jeu, merci. Bingo, ping. Ah oui, alors ça, si vous avez un problème, n'hésitez pas à dire stop avec votre voix. Et donc, on va essayer de faire un tout petit jeu. Il faut se lever. Pour que tout le monde me voit. C'est très rapide, il faut être assez concentré. Je vais dire 1, je vais dire 2, je vais dire 3, je vais dire go, et à go, on frappe dans nos mains, tous ensemble. OK? Ça paraît clair? 1, 2, 3, go. C'est où? Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il va falloir parler fort, par contre.
On n'a pas respecté la règle.
On n'a pas respecté la règle. Est-ce qu'on n'a pas écouté? Est-ce que c'est ça la raison qui fait qu'il y a eu un fail?
Non.
OK. Mais la première chose, je vais débriefer, on va aller vite. Mais par contre, remarquez bien, la première chose que font la majorité des gens, c'est on n'a pas écouté. C'est nous le problème. Vous avez vu? Je vais vous débriefer ça rapidement. Je vous ai enduit d'erreur. Je vous ai donné une consigne et ensuite, je ne l'ai pas respectée. Vous m'avez bien suivi. Ben, super. Et en plus, vous vous en voulez à vous. Génial, non? Ben, ça parle à des gens en entreprise ou dans votre secteur d'activité. Hein. C'est-à-dire, on vous demande quelque chose, vous arrivez avec la meilleure intention du monde, on vous a expliqué les règles du jeu qui vous paraissaient super, de bon sens, tout ça bien. Et en plus, ça donne envie. Et on y va. Et là, on nous dit, ah non, c'est pas ça. On voulait aller là, mais finalement, on va aller là. Et puis finalement, on va aller là. Et finalement, on ne sait plus où on habite. Ça vous parle, ça? Un peu? OK. L'agilité naît de ce truc-là. Dans les années 90-95, même un peu avant, il y a des gens qui se disent, dans le monde informatique, on nous demande de faire des choses, hein, de faire des applications, et après on nous dit, on nous donne des directives qui vont nous empêcher de faire bien notre boulot. Et au bout d'un moment, c'est très frustrant. Et du coup, de cette frustration est née l'envie de faire différemment. La première étape, ça a été de dire, on recommence à zéro. Et l'étape numéro 2, ça a été de dire, bon, et maintenant, on fait quoi? Et il y en a qui ont cherché dans le monde, des pionniers, d'accord? Et puis, au fur et à mesure, ils ont trouvé des façons de revenir à ce qu'ils voulaient faire. Alors, je suis déjà allé beaucoup trop vite, parce que ça, c'était le truc d'intro. Au départ, ça, c'était Découvrir la JT, c'était le titre. Et je ne peux pas ne pas remercier nos sponsors pour tout ce qu'ils nous permettent de faire aujourd'hui. Merci à eux. Je vais essayer de vous donner une vision d'ensemble de ce qu'on appelle l'agilité aujourd'hui, et c'est selon moi. Ce qui fonctionne bien dans l'agilité, c'est d'avoir un but unique et commun. C'est écrit en petit, ceux qui lisent, n'arrivent pas à lire, vous me dites. C'est le socle de toute action collective. Allez dans le même sens. Est-ce que ça vous parle, ces situations où, finalement, on n'a pas tous le même objectif? Par exemple, si on est dans les silos. Par exemple, si le commercial dit, moi, mon problème, c'est de vendre et d'avoir une bonne marge. Et le chef de projet, moi, c'est de livrer en temps et en heure. Et puis, l'utilisateur final à qui on dit, moi, j'aimerais une appli qui marche, celui-là, il n'est même pas dans le contrat. D'accord? Donc, vous voyez, le problème d'objectif pas commun, c'est vraiment un problème fort. Et donc, on va revenir à ce truc-là. La première chose qu'on va voir avec le manifeste Agile, c'est revenir à ça, avoir un but commun fédérateur. Au-dessus de ça, on pose des valeurs humaines. Communiquer, c'est purement humain. Collaborer, avoir du feedback, donc mieux communiquer. Vous avez quelques exemples ici, mais il y a trois petits points à chaque fois. Avoir du courage, avoir du respect les uns envers les autres. D'accord? Tout ça, ça permet de fonctionner correctement sur le but unique. Ensuite, on va poser des principes. Est-ce qu'on pourrait s'améliorer régulièrement? Est-ce qu'on pourrait s'adapter? Est-ce qu'on pourrait faire au plus simple? Parce que c'est ça qui marche le mieux, d'accord? C'est pragmatique, mais ça reste des principes forts. À partir de ça, on va poser des éléments de fonctionnement et d'organisation. Qui fait quoi? Et quand? C'est attendu à quel moment? L'itératif va se glisser là. Le fait de travailler en itération, on va y revenir juste après, d'accord? Et ensuite, on va avoir des pratiques dites, que j'ai appelées génériques, parce qu'en fait, elles s'appliquent à tous les contextes. D'accord? Et seulement en haut, j'y ai posé en chapeau les pratiques dédiées à un domaine, que j'ai appelé ici d'ingénierie, parce qu'en général, on parle d'ingénierie pour l'informatique, mais c'est là où vous allez poser vos différentes spécificités. D'accord? Alors, si on revient à cette partie-là, ça s'applique partout. Vous voyez? Le fait de rendre visuelles les choses, le fait d'avoir des graphes d'avancement, de savoir ce que veut dire « j'ai terminé mon travail », tout ça, ça s'applique même à la gestion des tâches courantes, de tâches ménagères, par exemple. D'accord? Et donc, ça s'applique à tous vos contextes. Pourquoi c'est génial? Parce que l'ensemble forme un tout cohérent. Et chaque étage renforce celui du dessous pour arriver à ce que l'ensemble fonctionne bien. Si j'arrive à vous faire repartir avec cette idée-là, que l'agilité est un tout cohérent et qu'on ne peut pas faire un petit bout ici, un petit bout là, je n'aurais pas perdu mon temps. Pourquoi je vous raconte ça comme ça? Parce que dans mon expérience de coach agile ou d'agiliste, j'ai entendu des gens qui disent « si on ne fait pas tel élément à tel étage, on n'est pas agile ». Si on ne communique pas bien, on n'est pas agile. Si on n'est pas tous ensemble, on n'est pas agile. Si on ne fait pas de test, on n'est pas agile, etc. Et en fait, je pense que c'est réducteur. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément faux, mais c'est réducteur. On est agile si on a cet ensemble-là. OK? Ça, c'est un premier élément qui est extrêmement important. Le deuxième extrêmement important élément que je voulais vous donner, c'est que, en fait, cette cohérence-là crée quelque chose de révolutionnaire. C'est un peu exagéré, mais enfin, c'est quand même assez inédit. La capacité d'avoir des bonnes idées, il faudrait communiquer bien, c'est une bonne idée, ça s'appelle des valeurs en entreprise, hein. Il faudrait de l'autonomie, il faudrait du dynamisme, il faudrait ceci, cela, c'est les belles idées. On n'a jamais le moyen de concrétiser ça, d'accord? Comment on fait pour avoir des bonnes idées? Comment on fait pour être innovant? Débrouille-toi, ok? Et même souvent, sur le terrain, on va nous demander l'inverse. D'accord ? Et donc, on a une dichotomie assez forte entre ce qu'on espère de nous et ce qu'on nous propose de faire concrètement, ce que le système nous propose de faire concrètement. On est d'accord avec ça ? Ce que l'agilité apporte de très différent et d'innovant et d'inédit, c'est cette cohérence super forte entre la façon de faire au quotidien, concrètement, et les valeurs qu'on avait avec. Est-ce que vous m'avez suivi sur cette partie-là ? C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, si on fait bien l'organisation ici, si on applique bien l'organisation, si on a bien les rôles, et ben du coup, on va se respecter. On va respecter la façon de faire. On va respecter les rôles de chacun. Si on fait bien l'itératif, on va pouvoir s'adapter parce qu'on aura un moyen de s'améliorer en continu. On a comme ça ce qu'on appelle nous un framework de fonctionnement. Est-ce que je suis clair ? Si je ne suis pas assez clair ou si j'ai des mots pas compréhensibles, vraiment dites-le-moi, je veux bien m'interrompre. Est-ce que vous êtes avec moi sur ce coup-là ? Itératif. Alors, je vais le définir après, mais... Vous voyez, c'est pas le problème, c'est qu'en fait, comme c'est un tout cohérent, il y a certains mots qui ont du mal à pas sortir dès le début. Itératif, itérer, ça veut dire faire quelque chose de répétitif, d'accord ? Et donc, une itération, ça va être une boîte de temps. Dans notre cas, c'est souvent 15 jours, d'accord ? On va se donner du travail pour 15 jours, on va se focaliser, se concentrer tous ensemble sur ces 15 jours-là, faire bien ce qu'on attendait de nous pour les 15 jours, et après ça, regarder si ça s'est bien passé, puis passer aux 15 jours suivants, avec du coup... d'autres tâches et d'autres choses à faire à l'intérieur. Pourquoi c'est vertueux ? Parce que quand on cherche à évaluer 8 mois de boulot ou 2 ans, waouh, c'est compliqué ça, d'accord ? On ne peut pas aller dans le détail, c'est compliqué. Alors que si on se concentre sur 15 jours de boulot, sur le tout de suite, ça c'est abordable. Ça revient à une taille humaine, d'accord ? Et du coup, ça nous permet d'engager quelque chose qui va nous amener à une réussite très probable, d'accord ? Et puis en plus, il y aura plein d'autres trucs que je vais voir. Mais pour l'itératif, c'est bon. Cette capacité à travailler par petits bouts et à répéter ça. Bien. OK pour la pyramide en question ? Alors, j'ai finalement voulu repartir de ce qui a donné naissance à l'agilité dans le monde en 2001. C'est 17 pionniers qui avaient cherché dans leur coin, puis qui se sont retrouvés et qui se sont dit, tiens, c'est quoi qui nous relie ? C'est quoi qu'on a trouvé qui marche ? Et donc... En 2001, ça fait quand même un petit moment maintenant, ils se sont dit, on a cherché par la pratique et l'entraide. C'est déjà des pistes intéressantes. Ce n'était pas des grandes théories. C'était vraiment en cherchant, c'était empirique et c'était ensemble. D'accord ? J'essaye, ça ne marche pas, je laisse tomber. Ça marche un peu, j'adapte. Ça marche bien, je continue et j'améliore encore. D'accord ? Et ensuite, ils se sont dit, il y a des choses qui apportent plus de valeur, qui fonctionnent mieux que d'autres. Et ils se sont dit, du coup, les individus et leur interaction, ça apporte plus de valeur que les processus et les outils. Alors, dans le monde informatique ou dans le projet informatique, c'est très, très vrai. C'est moins vrai dans d'autres domaines, mais ça reste quand même utile. Souvent, on déroule le « voilà comment faudrait faire ». L'inconvénient, c'est que ça ne donne pas les cas d'exception, la main sur les cas d'exception. D'accord ? Or, nos projets, quels qu'ils soient, sont souvent bordés d'exceptions, de cas particuliers qu'il faudrait gérer de manière particulière. Et le processus ne sait pas trop faire ça. Pourquoi on met l'outil là ? Parce que dans le monde informatique, on a demandé aux outils à évaluer le travail des gens pour dire si c'était bon ou pas. Et là, on se met à dire que l'individu est un outil pour le processus. Et là, on se met à marcher sur la tête. D'accord ? Les agilistes vous disent juste le processus, c'est bien, parce que celui qui ne connaît pas, ça lui donne les étapes de comment il faudrait faire. L'outil pour donner une évaluation de là où on en est, c'est bien. Par contre, ce qui apporte vraiment de la valeur, ce sont les personnes. Et c'est leur interaction. Et là, on commence à parler d'humain. D'accord ? Ils se sont dit aussi, dans le contrat, on a dit qu'on avait fini le boulot si les documents étaient livrés. Alors qu'on a dit dans le contrat que finalement, s'il y avait des bugs, c'était autorisé. Pas trop quand même. Mais on est en train de marcher sur la tête encore. D'accord ? Le contrat valide ça. Vous n'avez qu'à voir nos applications sur Internet. Ça ne marche pas toujours parfaitement. C'est un peu dommage. Okay ? Par contre, le contrat est content. Et donc là, il y a un truc qui ne va plus. Donc ils se sont dit, la doc, c'est bien. La doc utile, c'est mieux. Mais un truc qui marche, c'est ça qu'on voulait d'abord. On garde la doc. Alors là, il y a des gens qui se sont dit, « Oh, moi qui n'aime pas faire la doc, Au vu de ça, ben, le plus simple, c'est de dire je ne fais plus de doc. Je suis agile, je ne fais plus de doc. Mauvaise pioche. D'accord ? On a dit que les individus et l'interaction, ça concrétisait de la communication, et la doc est un élément de communication entre les gens, entre les équipes, donc c'est indispensable. Mais la bonne doc utile, ça c'est bien. Trop de doc, tu la doc, ok. Et un truc qui marche, ça serait vraiment mieux. C'était quand même pour ça qu'on était là. D'accord ? On se dit qu'on passe beaucoup de temps à négocier le contrat pour être sûr de pouvoir se défendre en cas de problème. On part sur la méfiance. On ne parle pas sur la collaboration. Et on peut dépenser beaucoup de temps, donc d'argent et d'énergie, à essayer d'avoir un contrat bien ficelé qui va obliger l'autre à avoir sa partie. Et alors du coup, on contractualise la non-collaboration. Le contrat, il dit, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Ça, c'est anti-collaboratif. On est d'accord avec ça ? Le contrat crée une illusion de garantie de succès, mais ce n'est qu'une illusion. Dans 99% des cas, quand vous avez un problème avec le contrat ou avec le delivery, hein, et ben vous prenez votre téléphone, vous mettez une soufflante au fournisseur, je ne sais pas, ou au client. Mais on parle, on communique, on est humain. On ne va pas au procès dès qu'il y a une demi-virgule qui pose un problème. Donc vous voyez bien que cet effort mis sur la collaboration et sur le contrat n'est pas productif. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de contrat non plus, hein, là encore. Juste, on le ramène à sa juste proportion. Dernier point, s'adapter, c'est mieux que de faire un plan quinquennal qui ne sera pas respecté, parce qu'on ne sait pas ce dont on a vraiment besoin dans 5 ans, ou même dans 6 mois, souvent. OK ? Et il répète en disant, attention, hein, on n'enlève pas les parties qui sont à droite, juste on valorise plus ce qui est à gauche. Est-ce qu'on est OK là-dessus ? Alors, vous voyez bien qu'on parle d'humain, beaucoup, déjà. D'accord ? Ça, c'est les 4 piliers. Et après, ils ont énoncé ce que je vous ai mis tout à l'heure, c'est les 12 principes. Je vous laisse les lire, je n'ai pas besoin de les commenter, on va les reprendre quasiment un par un juste après. D'accord ? On parle bien de principe, d'accord ? Vous voyez que c'est pragmatique. On ne dit pas qu'il faut supprimer l'inutile, juste le réduire, ils sont sympas. Hein ? Auto-organiser, c'est quelque chose, c'est un terme qui parle à tout le monde. Alors, ce n'est pas auto-gérer. Auto-organiser, ça veut dire quelqu'un donne un objectif et ensuite l'équipe s'organise comme elle l'entend pour atteindre l'objectif, pas pour faire ce qu'elle a envie de faire et éventuellement se barrer avec la caisse. Ok ? Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est s'organiser de la manière dont elle souhaite pour atteindre l'objectif. OK ? Alors, si on reprend, on ne va peut-être pas faire ça trop vite, trop longtemps. Avant l'agilité, on avait un truc qui s'appelle le cycle en V ou le waterfall dans le monde informatique, où on se disait, le client veut ça, demande un devis, il nous faut des détails, on fournit un budget, un délai, on fait un contrat, et le contrat met un joli verrou sur l'ensemble, fige l'ensemble, d'accord ? Et puis après ça, on commence, et après ça, les changements arrivent. Jusqu'à 60% les changements. Et là, on pleure, là. D'accord ? Parce qu'en fait, alors un bon chef de projet vous dira, j'ai 10% de risque, 20% de ce machin, on se met les tampons, d'accord ? Donc déjà, on part du principe que ça va être la galère et qu'on va avoir des changements, mais que ce n'est pas prévu pour. Et donc, eh bien, on va avoir une marge, voilà. Donc ça va coûter plus cher au client parce qu'on ne sait pas le gérer correctement. Donc on n'est pas adapté, d'accord ? Et en général, très 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 souvent, en fait, ce tampon-là, il est bouffé assez vite. Et après, il se passe quoi ? Après, c'est la galère, quoi. Après, la question est de savoir qui va éponger, qui va payer. Alors, il y a le client qui arrive à engueuler suffisamment fort le fournisseur, et donc c'est le fournisseur qui prend. Parfois, c'est le fournisseur qui est assez libre pour dire au client « Le contrat avait dit que, donc tu veux plus, il faut payer. » Voilà. Enfin, vous voyez, c'est... Mais dans tous les cas de figure, la collaboration, elle a explosé en vol. C'est ce qu'on a vu, là, la collaboration ou le contrat. D'accord ? En tout cas, ça ne marche pas bien. Donc, la vraie question qui est avec le changement, c'est comment on fait pour devenir adaptatif et pour gérer ce qui est conçu pour changer. Entre parenthèses, pour ceux qui font un peu d'informatique, c'est-à-dire que le cycle en V, il est conçu pour échouer. Hein. Voilà, fin de parenthèse. Alors, il y avait un autre problème, c'est les personnes. On a essayé d'encadrer un peu les gens. Les gens sont pénibles, ils sont malades. Ils ne sont pas toujours là, ils ne sont pas toujours motivés. Des fois, ils ont machin une crotte en arrivant et du coup, ils font la tête. En plus, il y a la compétence, elle n'est pas là, elle est là. Galère. Les gens sont pénibles à gérer, c'est vrai. Vivement les robots. En attendant, en fait, c'est eux qui apportent vraiment la valeur. C'est ce que nous rappelle le manifeste. Et donc, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent l'étude Gallup. Non, Gallup, non. Vous regarderez. Ça dit en gros qu'il y a trois catégories d'employés. Ceux qui sont activement engagés, c'est 10% des gens, hein. Alors qu'eux, c'est des locomotives. Même quand on leur tape dessus, ils continuent à vouloir le bien de l'entreprise et foncer. Il y a ceux qui ont été comme ça, mais pas longtemps, et qui donc, maintenant, je fais ce qu'on me dit de faire. Pas marqué la poste, hein, donc c'est pas très grave. Le syndrome, c'est... c'est pas une indication, hein, mais ça pourrait vous aider à savoir dans quelle catégorie vous êtes. Quand on arrive et qu'on entend « Ah, comment vas-tu ? » Ça va comme un lundi, vous voyez ? Ou alors « Vivement vendredi !» Lui, on sent qu'il n'est pas au taquet sur son boulot. Bon. Et attention, c'est pas un jugement de ma part. Hein, parce qu'il a été dans la première catégorie et il a pris suffisamment de coups pour dire « C'est bon, quoi !» Donc, c'est pas un jugement de ma part. Et puis, il y a ceux qui ont pris tellement de coups qu'eux, ils ont envie de flinguer le système qui a ruiné leur envie de bien faire au départ. Et donc, ils deviennent des résistants, des gens qui sont contre-productifs, qui essayent d'attaquer. D'accord ? Trois catégories. Génial. Bon. Et donc, en fait, la répartition, dans mon souvenir, c'est 10% pour les premiers, 55%, 50-60%, et puis quand même 30 ou 40% d'activement désengagés qui ont envie de se rebeller. Quoi. Et qui essayent d'être nocifs pour le système. Mais au départ, en arrivant, ils avaient envie de bien faire. J'aimerais qu'on vous preniez quelques secondes pour vous remémorer ça, pour envisager cette possibilité qu'en fait, au départ, la personne n'est pas quelqu'un qui est là pour juste les tickets restaurants. Au départ. On a envie de bien faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'occasion d'apporter quelque chose à un groupe qui va donc reconnaître qu'on apporte de la valeur. Ça, c'est existentiellement intéressant. D'accord ? Et on a envie, c'est inscrit en nous, sauf des cas très particuliers, voire des cas pathologiques, on va laisser ça de côté, d'accord ? Mais donc 99% des gens sont a priori dans la catégorie « je voudrais bien ». Et si on ne me tape pas sur la tête, et si on reconnaît mon boulot, et si on me permet de bosser correctement, je vais me défoncer. Et l'agilité pragmatique se dit « je vais essayer ». De donner l'émergence de libérer la potentialité de ces gens-là, quoi. C'est assez pragmatique, d'accord ? Parce que on n'est pas là. Aujourd'hui, on vous dit que le personnel est devenu une ressource, hein. On vous dit qu'elle doit être interchangeable, enfin bon, je ne vais pas vous lire le truc. C'est pas brillant. La méfiance est quelque chose d'important. Il y a une clé, hein, dans l'armoire pour l'armoire des post-it. Parce que vous êtes des voleurs. Génial, non ? Surtout pour les 2,50 euros que ça coûtait. Être flagué de voleur, c'est quand même désagréable. Il y aurait peut-être moyen de faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le vol de post-it. Hein. Ça veut dire qu'en fait, 99% des gens sont OK, n'avaient pas l'intention de voler du post-it. Et alors, la révolution serait de se dire, là je vous vends un peu les mèches, mais ça serait de se dire... Si on permet à chacun d'avoir cette liberté d'être honnête, à ce moment-là, les quelques-uns qui ne le sauront pas seront rattrapés par la patrouille de tous ceux, les 99, qui disent « Ah, c'est bon, tu remets les post-it, là, c'est gentil. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va remettre un règlement intérieur qui va nous rebrider et qui va nous reconsidérer comme des voleurs. Non, on n'a pas envie de ça. Il y a Alexandre Gérard qui a parlé de la dictature des 3%. Il s'est rendu compte en tant que chef d'entreprise qu'il faisait un règlement intérieur pour 3% de resquilleurs, qu'il arrivait de façon pas à encadrer parce qu'il trouvait toujours le moyen de filouter. Donc en fait, c'est peine perdue. Alors que les 97% pourraient, ont la maturité, si on leur apprend, si on leur donne la possibilité de le faire, ils ont la maturité pour encadrer les 3% qui ont des raisons. Je ne suis pas en train de dire que... Enfin, je ne veux pas les juger non plus, hein, attention. On a dit respect, on ne l'a pas encore dit fort, mais moi je le dis fort. Donc je ne suis pas en train d'accuser quiconque. D'accord ? Par contre, par constat, il y en a qui ont du mal à jouer ce jeu-là. On va faire attention. C'est pas fini. Le contrat a dit pas le droit à l'erreur. Puisque si on dérive, le budget va être explosé, le délai aussi, d'accord ? Donc il faut suivre les procédures et être déshumanisé dans l'idée de fond, d'accord ? Bien. Je ne parle pas de réorganisation qui arrive entre tous les 6 à 18 mois, alors qu'il faut 3 ans pour que ça stabilise en moyenne et que ça commence à être produire. Donc tous les 18 mois, une réorg, c'est juste une catastrophe. Dans un certain nombre d'entreprises ou d'institutions, on a ça. Il y en a qui se reconnaissent là-dedans, dans ces constats-là. Bon, youpi. OK. Donc moi, je dis que globalement, ce n'est pas le bon plan. Je vous fais faire un petit détour par la systémique, que j'aime beaucoup. Il y en a qui connaissent un petit peu. Non, ce n'est pas grave. Alors, regardez bien. Le système va influer sur la façon dont les gens sont dans le système. Vous n'êtes pas les mêmes à la maison, au bureau, à la salle de sport, sur le terrain de foot, d'accord ? En train de supporter le PSG, tout ça, bon. Vous n'êtes pas les mêmes, d'accord ? Ou de pleurer, je n'en suis pas un, excusez-moi. J'ai entendu ça ce matin. Et l'idée de fond, c'est que on part d'une position neutre et on va se dire que si quelqu'un nous fait confiance, ça va nous plaire. D'accord ? Si on est responsable ou responsabilisé, c'est agréable. Si on est transparent dans l'information et qu'on nous donne le sens du travail qu'on est en train de nous demander, ça fait très plaisir. Si on est libre pour s'organiser sur le comment on va le faire, ça fait très très plaisir. Et alors, je veux dire, si en plus on nous reconnaît le travail, moi j'appelle ça nirvana. D'accord ? Mais on pourrait aussi avoir des situations où on est juste pris pour des exécutants qui devons obéir. Ça provoque soit de la tristesse, soit de la colère. On peut exiger de nous des choses, on peut se méfier de nous, c'est pas bon. Et ça va s'accentuer si on considère qu'on est juste remplaçable, d'accord ? Et alors le summum, pour moi, c'est l'infantilisation. D'accord ? Regardez bien quand vous approchez d'un péage. Maintenant, on vous dit 110, 90, 70, 50, parce que vous ne le saviez pas avant, hein, qu'il fallait freiner en arrivant au pays. Non, maintenant, voilà, des gamins. Voilà. On met des radars partout, et les radars vont... Je ferme la parenthèse, mais on est dans un système très infantilisant. Et en fait, c'est très déshumanisant. Et éventuellement, ça conduit à la dépression, au burn-out, à ces choses-là. Ce qui m'intéresse de vous montrer dans ce petit détour, c'est qu'en fait... C'est la même personne qui peut être l'un ou l'autre. Je répète. Vous voyez le truc ? Donc, on est très relié au système dans lequel on tombe. C'est intéressant à savoir parce qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Quand on vous donne un ordre stupide, 1, 2, 3, go, clac, le premier réflexe, c'est de ne pas être embêtant, de suivre du mieux qu'on peut les choses. Et si on se plante, eh ben on s'est planté et on se sent idiot. D'accord ? Et pourtant, vous n'avez fait que suivre du mieux que vous avez pu ce qu'on vous a proposé. La plus grosse source d'échec des projets en informatique est reliée au changement d'objectif en cours de route par le manager. C'est-à-dire celui qui vous demande de faire un truc, pour ensuite vous dire, non, finalement, voilà, il n'y a plus aucun repère, ça explose en vol. Et en plus, ça va être votre faute. C'est bon, ça, non ? Bon. Peut-être que la prochaine fois que vous avez quelqu'un qui vous fait faire 1, 2, 3, go, et vous avez cette petite prise de hauteur de dire « Waouh, moi pas mouton ». Et c'est pas négatif, d'accord ? Mais par contre, du coup, c'est moi qui décide ce que le système va m'imposer. Et peut-être qu'il y a des moments où, si ça me va pas, je dis non. Et si le système me dit « mais si », je vais dire « au revoir ». Mais vous voyez, c'est vous qui avez le curseur, cette limite de où s'arrête votre robotisation ou votre humanisation. D'accord ? Alors, on est peut-être un peu loin de l'agilité, et en même temps, pas tant que ça. Parce que si on permet à la personne d'être humaine, d'assumer son humanité, en fait, elle va se défoncer. Pour bosser, hein, pas à la coque. Hein. D'accord ? Et donc, c'est très important, parce que c'est le levier de motivation le plus fort, redevenir humain, pour bosser dans de bonnes conditions, et du coup, avoir une entreprise contente et un employé content. Il y a un Indien comme ça qui a dit, finalement, moi, c'est même pas mon client en premier, c'est mes employés en premier. Customer first, et non, justement, employees first, customer second. D'accord ? Et il a compris que s'il choisit ses employés, eux-mêmes vont choyer les clients et ça va être super vertueux et efficace. On est un petit peu là-dedans. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça propose ? On revient sur le premier principe d'agilité. Rappelez-vous, ça disait que, on parlait de priorité. C'est ça le prioritaire, c'est d'amener une satisfaction au client. C'est pas de remplir un contrat, hein, c'est pas ou de gagner de l'argent. Non, pas qu'on s'en fiche, hein. Mais c'est pas ça la première motivation, d'accord ? Et en plus, ça n'est quelque chose qui va servir, qui va être utile. Revenons déjà à ça, on n'a pas perdu notre temps, d'accord ? Ensuite, pour faire ça bien et que ça tienne dans le temps, l'agilité nous dit attention, l'excellence opérationnelle va être un gage de pérennité. Donc, oui, il faut de la qualité et il faut... Alors, chez nous, ça s'appelle l'industrialisation, chez nous, informatique, d'accord ? Mais en soi, c'est faire en sorte que ça tienne longtemps. Hein, le tracteur, si il marche bien, mais qu'un an, il vit d'être embêté. Alors que s'il tient 10 ans, je préfère. OK, c'est l'idée de fond. Ensuite, le manifeste nous rappelle qu'on est des êtres humains qui sommes dans le dialogue. Alors, j'ai mis ce petit truc parce que il y a beaucoup d'entreprises ou de projets où on communique essentiellement par mail. On est loin. Et en fait, on ne s'est même pas rencontrés dans les grosses boîtes. C'est très, très, très mauvais. C'est-à-dire que vous échangez un mail avec quelqu'un, vous avez 7% de chances qu'il comprenne ce que vous vouliez dire. C'est peu. Après, vous assumez. Hein, mais je veux dire, c'est pas beaucoup quand même, hein, 7%. Le ton de la voix. Donc déjà, avec le téléphone, on gagne. D'accord ? Mais le non-verbal est encore plus balèze. Vous voyez, on dit pas, ça ne veut pas dire la même chose quand j'écoute en levant les yeux au ciel ou quand je suis très attentif. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très, très important. Et la communication est faite de tout ça. Donc, pour que ça fonctionne bien, pour qu'on se comprenne bien, le mieux, c'est d'être ensemble. OK ? C'est QFD. On n'est pas des robots. Alors, ensuite, on va s'appuyer sur le feedback et la communication, puisque justement, c'est ça qui fonctionne le mieux, ça va nous permettre de faire émerger le bon sens qui était parti un peu loin de chez nous dans certains cas. D'accord ? Ça va permettre de faire émerger de l'innovation et de la créativité. On a le droit. Et encore plus avec l'itératif. D'accord ? Il va falloir un peu de courage pour se dire les choses. Par contre, on va avoir un climat de confiance tel que, hop, on s'autorise à dire les choses. Alors là, je vous enverrai, pour ceux qui ont envie, sur la communication non-violente, qui nous apprend qu'on peut dire quelque chose parce qu'on le ressent et que ce n'est pas forcément une agression pour l'autre. C'est-à-dire, je ne suis pas clair là. Vous me dites quelque chose et je le prends mal. Est-ce que c'est que l'autre a raté ou est-ce que c'est que moi, j'ai raté ? Ni l'un ni l'autre. Reprenons les faits, il a dit un truc, pour quelqu'un d'autre, ça aurait été banal. Moi, ça m'a appuyé à un endroit où j'avais mal. Et donc, je ne réagis pas bien. D'accord ? Ma première action, c'est de réagir pas bien. Qu'est-ce que je fais ? Je mets une tarte. Bon, c'est une idée. L'autre solution, c'est de lui dire, oula, quand tu as fait ça, moi, j'ai ressenti ça. Et en fait, du coup, j'étais pas bien. et mon besoin, ça serait d'être respecté, etc. Est-ce que la prochaine fois, quand on évoque ça, tu pourrais... Tac. Et vous voyez, on n'est pas dans l'accusation, on parle de je, on parle de soi. Il y a des techniques, il y a des outils qui nous aident à faire ça. OK ? Et donc, c'est important d'avoir le courage de cette confiance possible qui fait que la relation va être respectueuse des deux côtés. Parce que souvent, c'est comme nos histoires de 99%. Dans la majorité, l'énorme majorité des cas, la personne en face qui a envoyé un message qui a été mal reçu n'avait pas cette intention de faire mal. Dans l'immense majorité des cas. Regardez vos problèmes en famille ou avec vos collègues. C'est étonnant à quel point on arrive à ne pas se comprendre. D'accord ? Donc, ce n'est pas facile d'être en vérité et d'avoir de la transparence. D'accord ? Je vous donne un petit exemple. Imaginons un développeur, mais ça pourrait être dans n'importe quel... Tous les matins, normalement, on se réunit et on regarde qu'est-ce qu'on a pu faire la veille et qu'est-ce qu'on va faire le lendemain ou qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord ? Un petit point de situation pour être bien coordonné entre nous. Et imaginons que quelqu'un qui devait faire une tâche dit bah, « finalement, ça a été plus long que prévu, j'ai pas fini ». Et imaginez que le responsable lui dise « salaud bah, ». En même temps, c'est vrai. Parce qu'on avait dit « on filera le truc demain et finalement, on peut pas ». Salaud. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Bon, déjà, c'est pas très cool. Okay. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la suite. Imaginez que ce gars-là, à qui on a dit 2 jours avant, combien de temps tu penses mettre pour finir cette tâche-là ? Et il a dit 2 jours. Et puis finalement, c'est plus que prévu. Et on lui tape dessus. Et le coup d'après, on revient et on lui dit, au fait, et la tâche-là, tu penses mettre combien de temps ? S'il pense 2, vous croyez, il ne va pas dire 2. Hein, il ne va pas dire 2. Et en fait, il va dire 3 ou 4. Il ne va pas dire qu'il a fini au bout de 2. D'accord ? Et donc, tout le reste du projet, ou presque, le client va perdre 1, 2, 3 jours de valeur. Juste parce qu'il y en a un qui passe à se sentir respecté. D'accord ? Ça s'appelle le droit à l'erreur. On va voir ça juste après. Mais cette vérité, cette transparence, c'est un luxe qu'on n'a pas trop aujourd'hui, mais qui serait possible et qu'on essaye d'instaurer dans un système agile. OK ? C'est fondé du coup sur le respect. Alors respect, c'est pour moi une valeur au sens large. Respect, c'est respect de soi, des autres, du travail des autres, de son travail à soi, des règles qu'on s'est données, des propositions agiles, du contrat, avec les contraintes, etc., etc. D'accord ? On prend tout ça. Si c'est là, c'est parce que ça a une raison et on va faire avec. D'accord ? Alors, ça aussi, c'est bon. On vous a dit, voilà la responsabilité qu'on vous confie et maintenant, tu peux t'organiser comme tu veux pour honorer cette responsabilité-là. OK ? Souvent, quand on vient dans des systèmes comme ça, agiles, ou ce qu'on appelle aussi entreprise libérée, certains connaîtront peut-être, en fait, on parle beaucoup de liberté. Et alors, j'ai fait l'expérience, dites à quelqu'un, vas-y, fais comme tu as envie, t'es libre, vas-y, défonce-toi. Et quelqu'un à qui on donne la liberté comme ça, et à qui on ne donne pas la responsabilité qui va avec, vous savez ce qu'il fait ? Il prend la liberté et il se barre avec. Le premier réflexe, c'est d'en jouir de cette liberté, mais pas du tout l'assumer la responsabilité qui était avec, si on ne l'a pas précisé. D'où ma proposition aujourd'hui de dire, on pose la responsabilité, quelqu'un dit OK, et à partir de là, on dit, maintenant, je considère que tu as les ressources et que tu vas faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc, tu es libre de t'organiser, mais pour honorer cette responsabilité. Et ça, c'est génial, en fait. D'accord ? Parce que ça laisse quelqu'un à qui on dit, vas-y, tu es libre, en fait, c'est très angoissant potentiellement. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de cadre. Quand est-ce que je vais finir ? Pourquoi ? Comment ? C'est un peu angoissant. Alors que si on sait exactement ou très précisément ce qu'on doit produire, ce qu'on doit délivrer, à ce moment-là, bah, on a un cadre qui est rassurant. OK ? Une fois qu'on a ça, il y a aussi ce fameux droit à l'erreur. C'est-à-dire la capacité à apprendre. On a dit que, si vous regardez bien, vous avez tous... eu cette expérience d'apprendre à marcher, enfin je pense. Si on vous avait interdit de tomber dans l'apprentissage de la marche, vous ne marcheriez pas. Vous n'avez réussi à marcher que parce que vous avez essayé, raté un peu moins, etc. jusqu'au succès. L'erreur pourrait être un processus d'apprentissage, devrait être. C'est le meilleur qu'on ait au niveau des humains. C'est exactement l'inverse qu'on nous a appris à l'école. T'as bon ou t'as pas bon. Et quand t'as pas bon, ok. Si t'as pas la moyenne, Génial, hein, c'est motivant, ça fait plaisir aussi. Ça vous rappelle les souvenirs. Alors, c'est très important et l'itératif, là encore, va nous aider grandement. Je travaille sur 15 jours, donc si jamais je me plante, je ne mets rien en danger. D'accord ? Je fais un essai, quelques jours, je monte, je regarde, hop, c'est génial, on enquille, ça ne marche pas, on arrête, on a le droit à l'erreur. Cet itératif est absolument génial pour ça. D'accord ? Eh bien, il nous reste à voir que la collaboration va faire partie intégrante du système équipe et des interactions qui vont avec. Bien. Donc, ouais, Human Inside, de nouveau. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait une phrase qui disait que le rythme devait être soutenable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le maintenir indéfiniment. C'est-à-dire que la journée ne se termine pas à 20h30 et que les phrases du genre « quand on part à 17h30, oh, t'as pris ton après-midi, mais tu es hilarant aujourd'hui ». Voilà, bon, bah, faut arrêter, quoi. Pas respectueux, ça veut dire qu'on est en train de présumer que l'autre est un glandeur, ça veut dire que ça, c'est une catastrophe, en fait. Tu regardes bien, par rapport à toutes les valeurs qu'on vient d'énoncer, c'est off à tous les sujets, à tous les niveaux. D'accord ? On va par contre se dire, je coach aujourd'hui, c'est ainsi une équipe où ils arrivent à 10h, ils repartent à 18h, 18h30, 19h. De loin, on a l'impression que c'est des glandeurs. Mais en fait, ils rebossent de 20h à 22h, ils rebossent le week-end. Et ça délivre et ça marche. Voilà. On a confié la responsabilité, on a le truc qui va avec, ils s'organisent sur le comment. Pas de problème. OK ? Par contre, pas soutenable, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, l'agilité, c'est très hypocrite, c'est un moyen de mettre la pression. Parce que du coup, on fait croire qu'on les motive, on leur donne un objectif, et puis en fait, après, on leur dit « dépêchez-vous, le contrat dit qu'il faut se dépêcher !» Et puis on ne pouvait pas être complètement agile, alors on est un peu agile. Et la cohérence, là, elle a explosé en vol. Okay, et donc, à ce moment-là, c'est plus tout soutenable. Et là, on a des valises sous les yeux, et des gens usés au bout de quelques mois. Et en fait, ça s'appelle... un burn-out bientôt ? J'en ai vu un peu. Faut pas. J'ai été chez Orange à une époque, à l'époque où il y en a qui se sautaient par la fenêtre. C'est une mauvaise expérience, faut pas le faire. D'accord ? Et j'étais très triste parce que quand on sait ce que l'agilité propose, on se dit qu'il y en a qui auraient pu ne pas faire ce genre de choses. L'agilité est donc intéressante parce qu'elle est bonne pour les individus et elle est bonne pour les entreprises. D'accord ? Reprenons. L'agilité mise gros sur l'humain. Simplement. Et est-ce que c'est de la philanthropie ou un monde de bisounours ? Non. Non. C'est du gagnant-gagnant seulement. D'accord ? Parce que la personne à qui on permet d'exprimer son potentiel, ses compétences, d'apporter de la valeur, d'être reconnu au sein d'une équipe, de délivrer quelque chose où le client dit « c'est génial, c'est exactement ce que je voulais, merci les gars ». Waouh ! Ça, c'est mieux qu'une prime. Je ne dis pas qu'on se fiche du pognon, mais c'est mieux qu'une prime, vraiment. D'accord ? Et donc, tout le monde est content. OK. Il reste à voir un petit peu comment ça marche, un tout petit peu. Première chose, ce sera ce fameux itératif. À deux endroits dans les principes, le manifeste rappelle qu'il faut livrer fréquemment. Et on se dit que livrer fréquemment, ça voudrait dire, la façon de le faire, ça a été de l'inventer ou de mettre en œuvre l'itératif, pas d'inventer parce que je ne vous l'ai pas dit, on n'a pas le temps, mais l'agilité se fonde sur 40 ans de bonnes pratiques. C'est tout sauf nouveau, c'est juste du pragmatisme. Ça, c'est très important, d'accord ? Ce n'est pas un buzz, ce n'est pas nouveau. Bien. Et par contre, il y en a qui bossaient avec des itérations depuis longtemps et on trouve ça génial, qui l'ont dit, d'autres l'ont entendu et ça a été incorporé comme ça. Très empiriquement, mais ça a été incorporé comme ça. Et donc, oui, l'itératif va permettre de bosser un petit peu, de livrer fréquemment, d'avoir un feedback très, très rapide, de savoir s'il faut corriger quelque chose, adapter, améliorer. Et là, on arrive à avoir un client content. Dans le contrat, c'est compliqué à contractualiser, mais c'est jouable de lui dire à peu près ceci. Tu vas changer d'avis en cours de route. Tu sais en fait pas trop ce que tu veux. Tu as les grandes lignes, oui. Mais donc, en fait, on va plutôt miser sur le fait qu'on va interagir régulièrement et itérer avec toi et que tu ne sais pas trop ce que tu veux au début, mais tu auras à la fin exactement ce que tu voulais. Tu ne sais pas encore maintenant que c'est ce que tu voulais. Est-ce que j'ai été clair dans la définition ? OK. Et ce n'est pas facile à contractualiser. mais c'est jouable. En fait, ça s'appuie du coup non plus sur un contrat et des contraintes, mais sur une collaboration, sur justement la communication, du feedback. OK ? Ça devient possible avec des règles différentes, tout simplement. Donc, une itération, c'était ça. Une boîte de temps, pas plus de 4 semaines, sinon ça crée ce qu'on appelle un effet tunnel, on ne sait plus où on va, où le client ne voit plus rien. C'est une durée fixe, ça s'enchaîne. Et dans la méthode la plus populaire agile qui s'appelle Scrum, on appelle ça un sprint. Un incrément, c'est une façon, c'est quelque chose qu'on ajoute. Et donc, incrémental et itératif, ça veut dire on va procéder par petite boîte de, par boîte de temps, on va produire un peu plus de valeur à chaque fois dans la boîte de temps, dans l'itération, et on va ajouter donc un peu plus de valeur à chaque fois dans l'application ou dans le domaine où on est. D'accord ? C'est bon pour ce principe-là ? Pour cette idée-là ? Alors, regardons comment ça marche. Imaginons qu'on ait une liste de choses à faire. Dans le jargon agile, ça s'appelle un backlog produit, mais appelons-le choses à faire. Chaque élément à faire s'appellera une story, une histoire. D'accord ? On va commencer et on va travailler sur quelques-unes des stories qui ont été sélectionnées. Les autres, on les laisse là, d'accord ? À la fin du sprint, à la fin de l'itération, on va valider ensemble ce qui marche. Si ça marche, sinon, d'accord ? Mais par contre, on valide. Et puis ensuite, on passe au sprint 2, d'accord ? On reprend d'autres éléments. Par contre, si entre-temps, il y a eu des choses qui se sont rajoutées, « Ah, au fait, je voulais ça aussi !»« Ah, au fait, je voulais ça aussi !» Eh bien, c'est assez facile à incorporer. Dans un document de spec ou qui dit ce qu'on doit faire, c'est compliqué d'incorporer au fur et à mesure, en cours de route. Alors que là, en fait, on peut incorporer de nouvelles choses sans perturber ce qu'on va démarrer pour les 15 prochains jours. Et donc ça, c'est génial. On va préparer la suite, ça, c'est pas très grave. On valide à la fin de l'itération ce qui a pu être fait. On capture le feedback du client. Parce que lui, quand il commence à voir ce qu'on fait pour lui, je peux vous dire que les idées, ça y va. Hein. OK ? Et puis, etc. On peut éventuellement supprimer des choses. Pourquoi pas ? Si c'est dépriorisé parce que le client a dit « Ah, ben, je voudrais ça !» On va lui dire « Oui, mais dans la capacité de production qu'on s'est donnée avec le budget, ça ne rentre plus. Donc, est-ce qu'il y a des choses moins prioritaires que tu enlèves ?» Oui, et ben voilà. Et on arrive, du coup, à faire quelque chose d'adapté vraiment. Et c'est à ce moment-là, et parce qu'il y a ce système-là, qu'on peut dire au client « Tu auras à la fin ce que tu voulais vraiment, et tu ne sais peut-être même pas que tu le veux. » On est OK là-dessus ? Alors, ça veut dire qu'on ne va pas trop détailler trop vite, ça ne sert à rien. Imaginez qu'au départ, au début du projet, ou au début du projet, on va avoir une vision très macroscopique qui va permettre aux gens qui vont le réaliser de savoir dont on parle, pas plus, pas besoin de détails. Et puis ensuite, on va zoomer. Quand on va devoir réaliser quelque chose, que ce soit informatique ou autre, on va zoomer. Là, maintenant, comment je le réalise ? Là, il faut du détail. Mais que là. Et donc, on ne détaille que l'utile au bon moment. Parce que si jamais, finalement, il y a une story qui ne sera pas faite, ben, on va l'enlever, on va remplacer par autre chose. Si on a pris du temps pour le détailler au début du projet, ça n'a servi à rien. Enfin, on a perdu du temps. D'accord ? Ça a servi à perdre du temps. Si c'est compris dans vos activités, ne changez rien.
Ça sert quand même à estimer le projet.
Donc, alors,
si on ne rentre pas trop dans le détail au début, on risque de ne pas savoir combien de...
C'est ce que j'aimerais arriver à vous montrer, comment ça marche. Alors, le gain de l'itératif. Mais effectivement, c'est un vrai problème, ça. Hein. Alors, les gains, ça va donc être un feedback client et réalisateur vraiment régulier. Donc, une meilleure collaboration, on pourra mieux savoir. On va arriver à capturer par itération la capacité de production de l'équipe. Donc, si j'ai budgété 8 itérations, une fois que j'ai constaté à quelle vitesse elle va, ensuite, je peux prédire si ça rentre ou pas. On va voir. Mais, donc, on a une meilleure prédictibilité. Ça n'existait pas avant, ça, hein, dans le système. Et du coup, on a un suivi bien meilleur. On va mieux maîtriser les risques parce qu'on va voir si ça rentre ou pas. D'accord ? Du coup, on pourra changer plus facilement, reprioriser s'il y a besoin, innover grâce à nos petits essais en cours de route. Et c'est le moyen de faire de la meilleure continue. On va voir juste après. OK ? Merci à l'itératif. Quel que soit le contexte, c'est top. Dans l'éducation des enfants, c'est top aussi. Je peux vous le dire. J'essaye. J'ai fait ça avec ma femme aussi. Hein ? Ah oui, je suis un peu atteint, moi. Parce qu'en fait, on s'est dit, tiens, c'était ainsi, ça va moyen. OK, on se pose, on s'écoute, on ne s'interrompt pas. Moi, je ressens ça. Ah, moi, j'ai essayé ça. Ah oui. Et là, on s'est compris. Du coup, on a mis en place quelques actions où on a dit qu'on allait faire un peu attention à tel truc pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, on s'est dit, tiens, alors on en est où? Ah, ben, c'était beaucoup mieux. Paf, 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 paf. On a fait ça, je ne sais pas, 6 mois. Puis, ah, ouais, c'est top. Avec les enfants, c'est pareil. Enfin, bon, voilà, vous avez compris. C'est important parce que, en fait, ce framework-là, il est bon, quel que soit le domaine. D'accord? Alors, si j'ai une démarche empirique au départ, mais que j'ai le droit à l'erreur et que je travaille en itération courte, je vais pouvoir m'améliorer en continu. C'est-à-dire, à chaque fin d'itération, c'était un des principes dans le manifeste aussi, d'accord? Régulièrement, on va se poser, on va se demander ce qui marche moins bien, ce qu'on pourrait améliorer et comment on pourrait améliorer. Et ça, c'est génial. Normalement, dans un système normal, ça s'appelle un bilan de projet. En vrai, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas que c'est pas bien, c'est... En fait, les contextes étant différents d'un projet à l'autre, souvent, ça ne matche pas, puis en plus, on les a entassés, ça fait partie de la bureaucratie, et en fait, on s'en sert pas. À tort ou à raison, j'en sais rien, mais on s'en sert pas. Alors que là, on est sur le même contexte, avec les mêmes personnes, on dit ça, on voudrait que ça s'améliore, hop, on décide de l'améliorer, hop, on le fait, hop, ça donne envie de faire d'autres améliorations, et c'est super efficace. Vraiment. D'accord? Alors, comment ça pourrait marcher un projet? On va travailler par version. On va étudier pour vérifier si c'est possible, préparer les choses à faire. C'est important cette phase de préparation. Ensuite, on va regarder à quelle vitesse on va. Ensuite, on va réaliser et ensuite, on met en production. D'accord? À chaque itération, chaque sprint, S c'est pour sprint, on va avoir une phase où on va se demander qu'est-ce qu'on va faire comme boulot et puis on va valider ensemble que c'est atteignable. Ensuite, on va développer. Et puis ensuite, à la fin, on va regarder ce qui marche. Le fameux tout à l'heure, c'était le cadre qui devenait vert en disant c'est validé. D'accord ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qu'on peut montrer au client ? Et puis à la fin, la rétrospective, c'est ce moment d'amélioration continue. Et ça, on le répète jusqu'à la fin du projet. OK ? Ça vous donne une vision claire ? C'est bon ? Des questions ?
C'est quoi
S, c'est sprint.
Ouais, mais juste avant.
S, c'est sprint aussi. Parce qu'en fait, ici, on sait bien ce qu'il nous faut pour préparer le projet. Et donc, en fait, je gère l'exploration comme un projet agile. Voilà. Alors, beaucoup de rôles introduisent des contrôles, des gens qui doivent contrôler que vous avez bien fait votre boulot. Dans l'agilité, on a trouvé que, pas trop de rôles, mais des rôles vraiment responsabilisés, ça marche mieux. Donc, on a défini quelqu'un qui sait ce qu'il y a à faire. On va l'appeler Product Owner ou PO, d'accord ? Lui, c'est ce qu'il y a à faire. Il y a ceux qui savent comment on va le réaliser. Et puis, il y a celui qui sait comment on organise le boulot, qui connaît l'agilité. J'ai entendu qu'il y a des qualiticiens dans la salle. En fait, on pourrait l'appeler qualiticien, sauf que le qualiticien amène la qualité. Là, c'est presque ça, sauf qu'on l'appelle agilité. Dans beaucoup d'entreprises où on essaie de mettre de la qualité, le qualiticien, il a 2% de budget. Il vient 2 jours par semaine, ou un jour, ou 2 heures. Il passe une checklist sous Excel, parfois, et il n'a pas le temps de plus. Et il voudrait plus, il n'a pas le temps de plus. Et au final, sa démarche qualité, elle est un peu sabordée, souvent contre son gré. Là, l'agilité dit, on va faire plus simple. Il y aura quelqu'un à temps plein sur le projet. Il est là, et il nous aide vraiment. Et il peut bosser aussi, à faire du développement ou autre chose, mais il est là. Et là, du coup, il nous aide à rester, à devenir agile, et à rester agile, et à s'adapter tout au long du projet, d'accord ? Et ça, ça marche bien. C'est un investissement, mais par contre, l'investissement, le ROI à la fin, le retour sur investissement, c'est qu'on a un projet qui finit bien et qui apporte vraiment de la valeur avec un client content. Ça, c'est pas une option, en fait, au départ. Et pourtant, moi, je sais qu'à une époque, dans une grosse boîte, on s'est mis à l'agilité. Il y en a qui disaient, ouais, c'est pour devenir hyper productif. Nous, c'était pour finir les projets, déjà. Délivrer quelque chose, parce qu'on n'arrivait à rien. D'accord ? Il y a quelques années, il y a une étude qui disait que dans les projets de plus de 2 millions d'euros, seuls 2% des projets aboutissaient à quelque chose. 2%. Vous imaginez le gâchis ? Bon, fin de parenthèse. Donc voilà, si on pouvait juste apporter quelque chose, ce ne serait pas si mal. Alors du coup, une histoire pour utilisateur, qu'on va appeler donc user story, d'accord ? On va essayer de la formaliser la plus simplement possible. À une époque, on avait des langages d'informaticiens très compliqués, on appelait ça UML. Il fallait presque être certifié pour pouvoir comprendre ce qu'il y avait à faire. Et bien là, on a dit que le plus simple, c'était de communiquer en langage naturel. parce que ça sera, il n'y aura plus de barrière de communication et de compréhension. D'accord ? Et donc, on se dit, bah, quelqu'un voudrait quelque chose parce que. Dans beaucoup de cas, le parce que, il n'existait déjà pas. Avant. Et pourtant, c'est important parce que celui qui va faire le travail, s'il sait pourquoi, il va poser des questions beaucoup plus pertinentes et il va répondre de manière beaucoup plus pertinente en réalisant le truc. Donc, c'est vraiment utile. D'accord ? Alors, du coup, on va avoir un product owner qui va recenser les besoins. Hein ? En tant qu'utilisateur non identifié, je voudrais pouvoir m'inscrire sur Facebook pour dire bonjour à ma grand-mère. D'accord ? On recense. Et puis, une fois qu'on a recensé, après, on a fait la liste au Père Noël. Le truc d'après, ça va être de prioriser. On a une technique, il y en a plein des techniques. Hein. J'aime bien celle-là. C'est une proposition, ne considérez pas que c'est l'agilité, c'est que ça. D'accord ? Mais c'est une proposition qui est assez répandue. On va l'appeler Moscou à cause des initiales, d'accord ? Et on va dire, il y a ce qui est indispensable. Et puis ensuite, il y a ce qui serait bien avoir, il y a ce qui serait du luxe, et puis il y a ce qu'on va, raisonnablement, pas avoir le temps de faire. Et donc, le PO va répartir ses user stories dans les catégories. S'il met tout dans must, on a un problème. OK ? Alors, pourquoi c'est utile ? Parce qu'on va arriver à une story map. Et vous voyez que si on ne fait pas attention, on pourrait avoir à la fin du projet un super module client et on n'a pas eu le temps de faire la facturation. C'est ballot. Avec ça, on sait qu'on fait au moins ces musts-là et qu'on attaque le should si on a le temps. D'accord ? C'est pragmatique. Bien. Après, la question se pose sur l'estimation. Comment on estime ? Alors, on utilise une métrique assez bizarre. On a pris Fibonacci pour ça. Et la question est de savoir, est-ce que c'est compliqué ou pas ? Alors, je vous la fais courte, regardez bien. On va prendre une référence. Ça, on sait, on connaît. C'est une tâche simple. On va en faire une référence. Et ensuite, on va se dire, et celle-là, elle est plus compliquée ou moins compliquée que notre référence. Voilà. Et du coup, on va pouvoir répartir les choses, d'accord, les stories. C'est au doigt mouillé, hein. On n'a pas le détail. Mais par contre, la collégialité des expériences des développeurs va donner quelque chose de relativement subjectif. En tout cas, ça correspond à leur niveau, donc c'est assez proche de la réalité. La vertu de ça, au départ, une note ne veut rien dire, d'accord ? Un 8, ça ne veut rien dire. Par contre, un 8, c'est moins qu'un 13, quoi. Et plus ça grandit, plus le pas est important et plus ça montre que ça va être compliqué à réaliser. C'est ça qu'on cherche. L'autre truc qui est intéressant, c'est que bah, du coup, on fait la somme des points et on obtient 28 points. Et donc, on a réussi à faire une estimation alors qu'on n'avait pas le détail. Ça, c'est inédit pour moi. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, comment ça marche ? Eh bien, on va prendre les stories et démarrer avec le sprint 1. Hop ! J'ai fait les 6 points et je vais tracer la courbe. D'accord ? On avait 28 points ici et je fais moins 6 points, tout simplement. OK ? Dans le sprint 2, je mets d'autres points. Je les réalise, hop, et en fait, j'ai un graphe d'avancement qui est assez génial, vachement simple à faire, et qui, en plus, va me permettre d'anticiper. On avait parlé tout à l'heure d'anticiper les risques. C'est avec ce genre d'outils. C'est vraiment pratique. C'est à lecture immédiate, à compréhension immédiate. C'est vraiment simple. OK ? Les 6 points. Au début, on a dit qu'on avait provisionné 6 points, là. Les 3 et 3, c'est ça les 6 points. D'accord ? C'est bon ? Effectivement, je ne l'ai pas dit. Ça joue. OK ? Mais donc, du coup, on arrive à provisionner le bon volume de boulot, a priori, d'accord ? Et puis à savoir où on en est. Et ça, c'était inédit aussi, il me semble. D'accord ? Ça, c'est au niveau global. Oui.
Je veux revenir sur le graphique.
Oui. Ça, ça nous dit, alors si je suis ici, ça dit que si je vais à la même vitesse que le dernier sprint, je vais atterrir ici. D'accord ? Et donc si je comptais, si mon budget avait 4 sprints, je suis dans les clous. S'il y en avait 3, je sais déjà que je vais sortir des clous. Alors qu'est-ce que j'en fais ? Bah, du coup, je vais regarder les stories qui restent à faire. Je vais regarder si c'est du must, du schuld, et si c'est du schuld ou du cool, eh ben, je vais pouvoir tranquillement dire ben, ça, on ne l'aura pas. Ou alors, il faut rajouter une itération ou deux itérations, mais ça, je vais pouvoir le dire super facilement parce que j'aurai quantifié la capacité de production de l'équipe par sprint et le nombre de points qui reste à faire. Ben, alors, pas quand on estime au départ, tout à fait. En fait, on estime d'abord en points, et ensuite on ramène à une échelle de temps et on voit ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas. Alors, en fait, il n'y a pas de ruse. Mais même avant, il n'y avait pas. Donc là, la proposition que je vous fais, c'est considérer que vous partez sur un projet de 3-4 mois ou de 6-8 mois pour se donner le temps à l'équipe de démarrer et de devenir productive pour ensuite dépoter. Si on interrompt trop vite, ça, c'est pas bon. Et par contre, à partir de ça, vous avez votre budget et votre délai. Le projet fera 8 mois. Dans une DSI, si on considérait qu'on prend le nombre de projets et on divise par 6 mois et on dit que chaque projet va en moyenne faire 6 mois, on a un budget, un délai. On sait quelle est la taille idéale de l'équipe. En fait, on présume. On a dit qu'on ne savait pas trop ce que le client voulait et qu'on allait le découvrir au fur et à mesure. Donc, chercher à découvrir à l'avance, à prévoir à l'avance un truc qui va bouger, n'a pas de sens. Donc la bonne idée, c'est d'arrêter de chercher à prévoir, par contre s'adapter au fur et à mesure. C'est ma proposition. D'accord ? Ça répond aux questions du coup ? Alors, pour un sprint, on a dit qu'on définissait le début. Au début, le contenu, pardon. D'accord ? Il y a des questions et on va dire, ben maintenant j'ai des tâches unitaires qui sont associées à la user story. Voilà. Donc après, on valide ensemble que c'est atteignable, et une fois que c'est atteignable, eh ben on va s'engager et développer. D'accord ? Je vais aller rapidement, mais l'idée de fond, c'est qu'on va pouvoir faire, sur les choses terminées, le même grade d'avancement. D'accord ? Et chaque fois qu'il y a une user story terminée, on fait tomber la courbe. Là, la dernière va être terminée. La première ligne, et on finit la courbe. Et en fait, bah c'est assez simple à faire aussi, d'accord ? C'est visuellement très simple. On voit où on en est. Imaginons qu'on avait tout en cours, rien en terminé. Ça veut dire que notre courbe ici, elle est plate. Ça veut dire qu'en quelques instants, on voit la situation. C'est pratique. C'est très parlant. On est dans le management visuel, d'accord ? Bien. À la fin du sprint, on a validé ensemble, sur la base de ce qui était demandé au début, pas des idées qu'il a eues en cours de route, on est d'accord. Et puis ensuite, on va réfléchir ensemble à la façon dont on pourrait améliorer les choses dans le contexte qui est le nôtre, à un instant T. D'accord ? Ça, je répète, c'est super efficace. Bien. Alors, on a parlé de management visuel, c'est-à-dire faire montrer les choses, vraiment, d'accord ? Définir un vocabulaire commun pour être sûr de s'être bien compris, c'est de la communication avec du feedback associé. On va travailler à plusieurs parce que ça va permettre un certain nombre de choses très utiles, notamment l'intelligence collective, le partage de compétences, la diffusion des compétences techniques et fonctionnelles. On va essayer que chacun puisse bosser sur le travail de tout le monde, pas seulement le code, et de tester et pourquoi pas l'automatiser. Alors, les changements. Regardez bien, il y a quelques bonnes idées. On va essayer d'accepter la réalité quand elle s'impose à nous. C'est bête hein, comme idée, mais c'est utile. Plutôt que de dire, ah ben non, le contrat avait dit ça, donc maintenant, je veux pas le savoir. Voilà, on va essayer d'éviter cette phrase magique. D'accord ? On va oser les petits échecs et on voit qu'on va apprendre en faisant. Le fameux learning by doing, vous voyez, c'est très utile. J'ai vu des projets démarrer au bout d'un an parce qu'ils avaient du mal à démarrer. Et au bout de 3 ans, ils ont touché à la poubelle. Ils auraient démarré très vite au premier mois. Je pense que ça marchait mieux. N'hésitez pas à démarrer, essayer. On est encore dans une démarche empirique. L'agilité vous propose ça. D'accord ? On avance de manière itérative et incrémentale, on l'a vu. Du coup, de prioriser au fur et à mesure pour faire que l'utile. D'accord ? C'est quand on faisait des versions de 12 à 18 mois, une partie de ce qu'on embarquait, on ne savait pas si c'était utile. Et donc, on le fait quand même, puisque le contrat l'a dit. Et donc, on jette pratiquement la moitié du boulot à chaque release à la poubelle, parce que c'est inutile. Ça alourdit l'application quand même, enfin, c'est pas top. Une proximité maximale, pourquoi pas être ensemble sur un même plateau, d'accord ? C'est encore pour ce dialogue en face à face, ce principe-là. Et alors j'aime bien cette phrase qui consiste à dire qu'on cherche des solutions ensemble plutôt que des coupables. Essayez, ça change la vie. Hein. D'accord ? Bon, donc on va avoir des rôles, peu, mais clairement définis. On va faire attention à ce qu'ils soient bien respectés, c'est-à-dire que le client ne va pas arriver en disant « moi je veux Oracle » ou « moi je veux tel truc technique ». D'accord ? On va dire, on va demander ce qu'il veut au niveau de son application, fonctionnellement. Et après, on va laisser au technicien le soin d'apporter des propositions techniques. Et on ne va pas laisser le technicien dire ce qu'il pense du fonctionnel ou dire « moi, ta fonctionnalité, je ne la sens pas, je ne la fais pas ». Non, non, c'est pas ton boulot non plus. Voyez ? Donc, restez bien clair sur qui fait quoi va être très vertueux. On sait que des équipes de plus de 10, ça ne marche pas. Donc, ne le faites pas. D'accord ? Des gens expérimentés m'ont expliqué, et puis alors, c'était des formateurs à l'époque. J'ai essayé, parce que j'étais expérimenté en agilité. On était 12, 15. Bon, voilà, on a essayé. Bon, ben voilà, c'est fait, ça ne marche pas. Il ne faut pas le faire. D'accord ? Par contre, faire plusieurs équipes, ça marche bien. D'accord ? Les équipes peuvent être autonomes, une fois qu'on leur a bien expliqué le but. OK ? Et puis, pas de hiérarchie interne, en interne. D'accord ? Alors, il y en a qui, au début, en disant pas de hiérarchie, ont voulu tuer le chef de projet. C'est pas gentil. Et dans une organisation un petit peu volumineuse, le chef de projet continue à avoir tout son sens, et le manager aussi, d'accord ? Parce qu'il va représenter, enfin, en tout cas, c'est le boulot que je lui ai donné chez Orange, il va représenter le projet pour le reste du SI. D'accord ? Il va avoir ce boulot d'insérer l'application nouvelle dans un système d'information existant. Alors que l'équipe s'est juste focalisée sur la production de l'application. Si elle ne s'insère pas dans le reste, ça ne marche pas. D'accord ? Donc il est représentant et il est aussi l'interface avec le reste du SI. Donc il a vraiment un rôle qui peut être riche, qui est riche et qui est très utile.
Vous avez compris, le chef de projet par rapport à l'équipe agile, il est dedans,
il est entre les deux. En fait, il est dedans. Puisqu'il est partie prenante de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est en train de faire plutôt vers l'extérieur. Il est tourné vers l'extérieur, mais il est quand même au sein de l'équipe. Ça veut dire qu'en fait, on lui demande de ne pas interférer avec ce que l'équipe, avec l'autogestion de l'équipe. D'accord ? Mais il est dedans. D'accord ? Il participe, il peut être dans la rétro, etc. Mais avant, il traduisait le besoin des utilisateurs et il disait aux développeurs, fais ci, fais ça. Là, maintenant, il n'y a plus besoin, en fait.
Mais le chef de projet, il fait aussi rôle de product owner.
Non. Alors, les ruses consistant à dire je vais appeler le chef de projet Scrum Master hein, ou product owner, c'est une mauvaise idée parce que c'est un boulot. Hein. Et dans des organisations un petit peu complexes, en fait, les deux ont leur place. Et PO, c'est vraiment, product owner, c'est vraiment un travail à part entière, avec une formation qui va avec, parce que ça ne s'invente pas. Donc, je suis contre rien, mais il faut faire très attention, c'est un piège probable. D'accord ? Contractuellement, je vous propose de faire en sorte que les specs ne soient plus figés, qu'on puisse accueillir le changement, qu'on capte l'avis du client, qu'on ne s'engage que sur un nombre de points, du coup. D'accord ? Et puis... au niveau de l'organisation, faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de rôles, notamment les gens qui vont contrôler, les qualiticiens ou autres. C'est utile en tant que Jean-François Zobrist parle d'expertise quérable. Les contributeurs sont des gens très utiles dès le moment où on va aller chercher leur expertise et ils la proposent. Ils deviennent dangereux quand ils peuvent imposer leur expertise, parce qu'à ce moment-là, il y a des coups où c'est pertinent, il y a des coups où ils n'ont pas eu le temps de regarder le dossier et ils proposent n'importe quoi. Et ça, c'est dangereux. Alors que s'ils proposent, mais c'est refusable, ça les challenge, ça marche beaucoup mieux comme ça. D'accord ? Ça, on l'avait dit, ça, on l'a dit aussi. Décision collégiale, ça, c'est quelque chose d'important, puisque justement, l'équipe n'a pas besoin de chef, parce qu'on peut décider ensemble. Chacun va pouvoir parler. Va pouvoir donner son avis qui aura du sens. À moins de 10, ça fonctionne. À plus de 10, ça ne fonctionne plus. On recrée des clans. D'accord ? Bon. Effectivement, des changements sont indispensables. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est clair. Le truc en bas, je ne sais pas si on voit au fond. Où ça dit qu'est-ce qui... À vos souhaits. Voilà, qu'est-ce qu'on fait si juste on fait rien et on attend qu'il y ait de la magie qui opère ? OK ? Bon, eh ben 57, j'ai bon. Voilà. Alors, je peux répondre à des questions si vous avez ça en poche. Oui.
Vous n'avez pas parlé de la MVP.
MVP. Alors, il y a plein d'outils. Et en 55 minutes, c'était impossible. En fait, j'ai le slide, si vous voulez. OK, MVP, ça veut dire Minimum Viable Product. D'accord ? L'idée, c'est du Moscou, en fait. C'est le fameux must. D'accord ? Qu'est-ce qui m'est indispensable pour avoir une appli ? Finalement, le concept de priorisation de Moscou inclut ça. Et c'est vertueux de pouvoir, effectivement, se demander qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai besoin au minimum. Ça fait partie des outils. Il y en a plein d'outils. Alors là, pour le coup, on pourrait refaire... Il y a des formations qui durent 2 à 3 jours, hein, d'accord, sur le sujet. Ça répond à votre question. Ça existe. Ça vient du Lean au départ. L'agilité a cette spécificité de prendre partout où c'est utile. On a essayé de faire bien des projets, et puis on s'est aperçu que ça marchait bien, et puis après ça, on s'est aperçu que les clients demandaient à en faire plus. On s'est dit, ah ben donc, il faudrait agiliser plus. Et puis on s'est mis à penser à l'agilité à l'échelle, enfin, grossie. Après, on a parlé de transformation agile. Et à chaque fois, ça soulève des problématiques. Il n'y a pas de réponse officielle pure, enfin, unique, d'accord ? Il y a plein de pistes possibles et c'est à vous d'aller faire votre marché par rapport à votre contexte, ce qui est une bonne chose. D'accord ? Mais ces outils-là sont super. Oui ? Absolument. Alors, d'accord. Est-ce qu'on peut faire de l'agile à 1 ou 2? Alors, 1, 2, 3, enfin, le bon chiffre, c'était 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9. Certains disent même entre 3 et 9. Qu'est-ce qui se passe en dehors de ces bornes-là? Alors, au-dessus, c'est dangereux. On recrée une hiérarchie, on recrée une nécessité de contrôle. Au-dessous, ça restera très utile de structurer le projet avec le fameux backlog, de ne pas trop détailler, détailler au fur et à mesure, de faire de l'itératif, de capturer le feedback. Tous les principes que je vous ai évoqués dans la pyramide, les trois premiers là, ça reste, enfin les cinq premiers, donc ça reste tout à fait utile. Ce que vous n'aurez pas à ce moment-là, c'est la synergie qui est dans les compétences, dans l'intelligence collective qu'on a à partir de 5. Mais ça veut dire qu'on enlève une partie. Ça ne vide pas de sa substance tout le reste. Vous comprenez ce que, du coup, ça répond à votre question ?
Donc, on essaye quand même d'avoir un interlocuteur au sein de l'entreprise pour dire, bon, ben, moi, j'avance sur ce projet.
Bah ouais. Et c'est quand même super structurant d'avoir un cadre de fonctionnement relié à des valeurs quand même, c'est-à-dire qu'on fait attention à la collaboration et à la communication, au feedback, c'est-à-dire qu'on va montrer régulièrement peut-être quand même, d'accord ? Même si on est deux. Ça veut dire aussi qu'on va se donner un objectif pas trop loin. Le fameux release 1, on avait travaillé en release, c'est des macro-itérations aussi. Si on est sur un truc trop gros, ça va être compliqué. Donc on essaye d'éviter ça. Tous ces principes de fonctionnement sont super utiles. Le management visuel, ça va être génial quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça marche aussi. Ça permettra à la personne de se poser les bonnes questions et d'avoir un cadre de fonctionnement. Alors ça va lui demander un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Par contre, dans le temps et très rapidement, ça va l'aider beaucoup à structurer son activité et puis à la partager parce que c'est assez rare, même si dans l'opérationnel on est tout seul, c'est assez rare qu'il n'y ait pas des liens, qu'il n'y ait pas un moment des réunions où on est à montrer ce qu'on est en train de faire ou à dire tiens, je me suis fait ma roadmap, là j'ai mes stories, hein. C'est pas détaillé, mais je sais qu'a priori je fais cette story-là dans 3 semaines. Voilà, donc je peux le dire. À ce moment-là, on fera des itérations d'une semaine plutôt. Enfin, on va adapter le framework, mais par contre, ça reste super utile et ça va aider aux échanges avec les autres. Ça répond à la question, du coup ?
J'ai une question. Alors, c'est d'abord merci, parce qu'effectivement, il y a plein de choses et on sent bien que ça peut être dans tous secteurs. Mm-hmm. Je suis plus à l'accompagnement des
l'amélioration continue, le Kanban, qui se sont appropriés.
Oui.
Là, vous avez cité quelques éléments. Moi, ma question est très simple. Est-ce qu'on peut imaginer un label agile, comme on a une norme ISO de qualité, comme on a une norme innovation qui va arriver? Est-ce que une entreprise peut se prévaloir d'être agile et donc de gagner des parts de marché?
Alors, si vous voulez faire un business là-dessus, je pense qu'il y a du pognon à se faire. Mais le danger autour de ça, c'est que qui dit critère d'évaluation dit rigidification d'un système qui est fait pour la souplesse et l'adaptation, et donc, et en plus qui est fondé sur l'humain d'abord, et là on va évacuer l'humain pour mettre des critères factuels. Et logiquement, ça devrait, je ne sais pas quelle est la vitesse, mais ça va tuer forcément les principes d'agilité qu'on avait là. Parce que l'objectif, ça ne sera plus d'apporter de la valeur au client, ça sera d'être compliant avec la norme. Et là, on est en train de revenir au même truc qu'avant. Donc,
on peut accélérer le processus dès lors qu'il y ait un prototype qui soit fait, qu'on identifie au départ les entreprises qui soient plutôt à dimension humaine.
Alors, la théorie, c'est que vous avez raison. Mais la différence entre la théorie et la pratique, en théorie, il n'y en a pas, en pratique, il y en a. C'est-à-dire que, du coup, logiquement, il y aura forcément des gens qui vont arriver et qui... On a déjà le cas, en fait, aujourd'hui. C'est d'ailleurs étonnant que l'agilité ne soit pas morte. Parce que la première vague des gens qui se sont mis à l'agilité parce que c'était un business et parce que les TJM sont plus élevés, d'accord, on dit, ils connaissaient pas la pyramide, mais ils ont dit, je ne savais même pas qu'il y avait un but, que des principes et des machins. On va montrer qu'on est agile, donc on va renommer le CP en product owner, on va dire qu'on fait un backlog, on fait un peu d'itératif, et hop, ça y est, on est agile. Et ça, en oubliant les trois étages du bas, la pyramide, ça a fait des fails, des ratés à chaque fois. Chaque fois. Ou alors c'était vraiment à l'arrache et les gens étaient épuisés, éreintés, vidés à la fin du projet. Donc en fait, cet opportunisme-là a déjà été tenté. Le truc qui est étonnant et qui est la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas tué l'agilité, mais ça aurait pu parce que les gens, il y a plein d'entreprises qui ont dit « du coup, l'agilité, ça ne marche pas ». Et en fait, quand ils ont creusé un tout petit peu, ils ont vu qu'il y en avait qui avaient réussi et ils ont décrypté assez vite pourquoi ils avaient raté, parce qu'ils n'avaient pas été dans les couches basses de la pyramide. D'accord ? Et donc, la norme ISO, en l'occurrence, elle a du mal. Je veux dire, on a des certifications d'agilistes, coach, tout ça. C'est déjà en partie du flan. Alors, c'est dangereux. Ça serait pas mal. Normalement, en fait, le problème de fond, c'est que l'ISO ne devrait avoir du sens que si c'est un framework gratuit d'évaluation et que si l'évaluation est faite par l'équipe elle-même. Parce qu'à ce moment-là, on a une chance que ça ne sera pas pipoté. Voilà. Sinon... Est-ce que le KPI, vous connaissez le principe des Key Performance Indicators avec le KPI PASTEC? Le KPI PASTEC, c'est l'évaluation qui est vert dehors et rouge dedans. Voilà. Et en fait, c'est un grand classique. Et donc, pourquoi? On le rend vert, alors qu'il est bien rouge dedans. On le rend vert parce que ça remonte au tableau de bord du dessus, en hiérarchie, et en haut... le tableau de bord doit être vert parce que c'est bon pour les stock options. Donc, vous voyez, on est tous... c'est quoi l'intérêt? Est-ce que... Et là, on revient sur l'objectif du projet. Est-ce qu'on a le même ou pas? Ou est-ce que mon objectif à moi, c'est d'avoir mes stock options? Et le projet, je m'en fiche, vous voyez, pour faire simple. D'autres questions?
Moi, j'ai un problème sur la gestion du projet vis-à-vis d'un client extérieur. L'agilité sur un projet interne, on va dire qu'on peut effectivement passer en mode itératif, rajouter des modifications, etc. Le problème d'un client qui vient nous voir pour un projet, pour son projet personnel, c'est derrière, il veut un chiffrage. Mmh. Et là, on voit bien que le chiffrage, vu qu'on travaille par itération, on ne sait pas à l'avance vraiment combien d'itérations on va faire.
Non, mais par contre, regardez bien. Vous l'avez pas, j'ai pas eu le temps de vous la faire là, mais on pourra toujours en mettre. Et il y avait Moscou, d'accord? Il y avait ce qui est du must, ça, faut le faire. Mais ensuite, il y a plein de choses qui ne sont pas must, d'accord? Et donc, l'idée de fond, c'est de lui dire, on va se provisionner avec le budget tant d'itérations, à tant de personnes, ce qui nous fait le budget et le délai, d'accord? Et ça, ça peut être assez rapide. Et une fois qu'on a ça, de dire, on fait le point au bout du premier tiers de quelques itérations, on saura déjà dire si ça rentre ou pas, ou si, excusez-nous, finalement, on aurait que la moitié. Bon, mais au moins, on sait de quoi on parle, alors qu'avant, on ne le savait pas. Et le deuxième truc, c'est qu'après, c'est on va faire les musts, on va pouvoir le dire très vite. Et après ça, le client va peut-être dire, ah ben, j'en veux plus, j'achète des itérations supplémentaires. L'idée de fond, c'est d'arriver à contractualiser sur le pari premier qui était, on se donne une capacité de production en points, et après ça, on démarre. Et sur le fond, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est beaucoup plus pragmatique, et c'est la même chose, en non maquillé, de ce qu'on faisait avant. Vous voyez ce que je veux dire ? En final, si on regarde la réalité, on faisait ça. On savait que ça va changer en cours de route. On sait que le budget, il n'a pas beaucoup de sens. Et on sait que ça va être à l'arrache à la fin. Moi, je me rappelle d'un collègue qui m'avait dit le client passe son temps à changer d'avis, donc je demande. Maintenant, ce que je fais, c'est que je demande l'estimation au développeur. Après, je fais x2. Et on y va comme ça. Et ça rentre juste. Alors là, c'est la technique. Mais vous voyez, au final, je pense que c'est à l'arrache, quoi. Et on subit. Un des trucs importants dans ce truc-là, c'est qu'au lieu de subir les changements, on a tous été un peu agiles. J'ai entendu ça souvent. Je suis agile parce qu'on s'adapte. On s'adapte, mais on subit le changement, alors que l'agilité propose d'être actif, d'être proactif sur le changement et de savoir le digérer au fur et à mesure.
Donc, il n'est pas évident de faire passer ce mode de fonctionnement.
Alors, j'ai une proposition à vous faire, enfin, j'ai une suggestion à vous faire avec votre client, c'est de lui dire, commençons par une rétro. Dites-moi comment s'est passé le dernier projet. Oh, super bien. Alors, super bien. Bon, sauf là. Et puis là, ce n'était pas terrible. Et puis au final, normalement, au bout d'un moment, c'est « Bon, il ne faut plus que ça recommence comme ça. » Vous voyez ? Et voilà, quand je dis « accepter la réalité », c'est exactement cette idée-là. Vous pourrez construire un mode de contractualisation ou un mode de fonctionnement différent sur la base d'une mise en face de la réalité, qui est de dire « On voudrait que ça soit différent la prochaine fois parce que vraiment, la dernière fois, on a souffert tout ce temps qu'on est. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de l'authenticité, quoi. C'est bon ? Bonne suite et fin de journée. Merci à vous.